Vous écoutez On lit pour vous.
Pourquoi le genre n'est pas un concept woke? Un texte de Michel Doré, paru le 10 décembre 2024 dans la presse. Le professeur Michel Doré apporte une perspective sociologique à des questions sensibles et complexes. Il est professeur émérite de l'Université Laval et sociologue de la sexualité. Il est l'auteur de « La révolution des identités de genre enfin expliquée » chez Trécaré 2024. Plusieurs personnalités dans les médias et dans la sphère politique dénoncent ce qu'elles appellent la théorie du genre. Or, une telle théorie n'existe pas. Le concept même de genre n'est pas non plus une idée nouvelle, encore moins révolutionnaire. C'est le simple constat que les femmes et les hommes sont, aujourd'hui comme hier, socialisés différemment. C'est la vulgarisation du concept de genre qui est relativement nouvelle, pas la réalité qu'il décrit. Le genre est un concept qui découle de constats historiques, anthropologiques et sociologiques faciles à faire. Dans la plupart des sociétés et des cultures, les gens sont appelés à adopter des conduites associées à leur sexe, lesquelles peuvent être assez différentes. Le genre, c'est en somme la mise en scène de notre corps sexué, notre façon de nous vêtir, de parler, de bouger, de présenter notre visage ou notre corps aux autres, bref, de nous comporter. Voilà ce qui exprime notre genre. En somme, notre genre, c'est notre corps en action. On utilise depuis longtemps, sans susciter de controverse, les termes sexe psychologique, sexe social ou encore rôle socio-sexuel, qui désignent sensiblement la même réalité. La fameuse phrase de Simone de Beauvoir « On ne naît pas femme, on le devient » dans son ouvrage « Le deuxième sexe » paru en 1949, parle du genre. Être une femme, être un homme, ça ne relève pas seulement de la biologie, mais aussi de la culture. L'expression « sexe assigné à la naissance ». Des gens se désolent aussi de l'expression « sexe assigné à la naissance », affirmant que le sexe est alors simplement constaté. C'est vrai en ce qui concerne le sexe biologique, encore que, dans certains cas d'enfants intersexués, ce soit parfois difficile. Le problème, c'est que le sexe constaté ne sera pas toujours celui qui va prévaloir. On ne sait pas forcément l'anatomie que développeront à l'adolescence certains enfants intersexués. Chez d'autres personnes, leur sentiment d'appartenance ne correspondra ni à leur anatomie ni au sexe figurant sur leur acte de naissance initial. Le terme « sexe assigné à la naissance » ne vise aucunement à nier la biologie. C'est un terme utilisé par mesure de prudence devant le fait qu'un sexe est constaté, donc assigné à la naissance, mais que l'anatomie pourrait évoluer autrement et qu'on ne peut présumer de l'identité sexuée que développera chaque personne, autrement dit, le sexe auquel elle s'identifiera. Les questions identitaires sont plus que jamais sensibles. Elles sont aussi plus complexes et plurielles qu'il n'y paraît à première vue, notamment chez les jeunes générations qui ne se reconnaissent pas toujours dans le modèle binaire traditionnel. Cela devrait être source de dialogue intergénérationnel, voire de découverte, la diversité sexuelle et de genre étant déjà bien présente autour de nous. En effet, environ une jeune personne sur 5 ou 6, selon les plus récentes recherches, s'identifie maintenant comme LGBTQI+, ce qui est sans précédent. C'est le double, voire davantage, que parmi les plus de 35 ans. Ces jeunes sont là, dans nos écoles, nos centres de loisirs, nos équipes sportives, au travail, etc. Ils ne demandent qu'à être accueillis. Nous n'avons pas à tout comprendre, mais à être à leur écoute, à apprendre avec eux, avec bienveillance. c'était « Pourquoi le genre n'est pas un concept woke », un texte de Michel Doré, paru le 10 décembre 2024 dans La Presse.
Le mythe de la précarité financière des aînés, un texte de Marie-Ève Fournier, paru le 28 novembre 2024 dans La Presse. Quand Ottawa a annoncé la semaine dernière la distribution de chèques de 250 $ aux travailleurs, une mesure mise sur la glace, la grogne des retraités n'a pas tardé. Le discours selon lequel les aînés peinent à joindre les deux bouts et qu'ils sont davantage frappés par l'inflation que d'autres cohortes s'est fait entendre à répétition dans l'espace public. C'est assez curieux, parce qu'en juin, Le Devoir avait publié un grand dossier sur le plus grand transfert de richesses intergénérationnelles de l'histoire. Toutes les statistiques et les études citées démontraient que les aînés qui mourront dans les prochaines années laisseront des héritages plus garnis que jamais. Les comptables professionnels agréés, CPA, ont pris la peine de chiffrer les sommes astronomiques que les baby-boomers du Canada lègueront, 1 000 milliards de dollars. Ce n'est pas étonnant quand on sait que la valeur médiane des familles composées de personnes de 65 ans et plus dépasse 1,1 million de dollars, ce qui inclut l'immobilier, les véhicules, l'épargne et la valeur des régimes de retraite. Aucune autre cohorte ne dispose d'actifs aussi élevés, selon Statistique Canada. C'est logique, quand on y pense, puisqu'il faut du temps pour accumuler un patrimoine et profiter de la magie des intérêts composés. Les aînés affichent la plus forte valeur nette. Valeur médiane des actifs détenus par les ménages canadiens. Les actifs incluent l'immobilier, l'épargne retraite et les véhicules. Famille de 65 ans et plus, 1 109 700 $. Couple avec enfant, 645 900 $. Couple sans enfant, 555 500 $. Personne vivant seule de 65 ans et plus, 475 900 $. Famille monoparentale, 211 200 $. Personne vivant seule de moins de 65 ans, 183 200 $. Source, Statistique Canada, l'enquête sur la sécurité financière 2023. On peut aussi analyser la situation en regardant le taux de pauvreté par tranche d'âge. Mais encore là, les aînés se démarquent par leur situation enviable. La proportion qui vit sous le seuil de la pauvreté est plus faible, 6%, que parmi les autres adultes, 11,1%. C'est sans compter que la situation financière des 65 ans et plus a peu bougé entre 2021 et 2022, alors que la poussée inflationniste sévissait. On ne peut en dire autant parmi les plus jeunes, comme on le voit dans ce qui suit. Le taux de pauvreté est moindre chez les aînés. Proportion de Canadiens à faible revenu selon le groupe d'âge. Toutes les personnes. 7,4% en 2021, 9,9% en 2022. Moins de 18 ans, 6,4% en 2021, 9,9% en 2022. 18 à 64 ans, 8,2% en 2021, 11,1% en 2022. 65 ans et plus, 5,6% en 2021, 6% en 2022. Source, Statistique Canada. C'est logique quand on y pense, les rentes versées par Québec et Ottawa ne sont pas fixes. Au contraire, elles sont pleinement indexées au coût de la vie. En revanche, tous les travailleurs n'ont pas eu la chance de voir leur salaire bondir au même rythme que l'inflation. De plus, les aînés ont davantage profité de la hausse des taux d'intérêt pour s'enrichir puisque leur compte de banque est plus garni. Leurs CPG ont bien rapporté. Pourtant, à écouter la présidente de la Fédération de l'âge d'or du Québec, FADOC, Gisèle Tassé-Goodman, Au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, on a l'impression que les aînés sont très nombreux à vivre dans la précarité à cause de l'inflation et que ceux qui ont les moyens de voyager font figure d'exception. Les revenus sont fixes pour les gens qui reçoivent les avantages du gouvernement. Le coût de l'épicerie, les biens de consommation, le transport, le loyer, ça a énormément augmenté. Il faut venir en aide à ces personnes-là. Le discours de l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR, est similaire. Les personnes qui ont été les plus affectées par l'augmentation du coût de la vie, proportionnellement, ce sont les aînés, particulièrement les aînés les plus vulnérables, les gens qui ne vivent qu'avec les revenus fédéraux, a dit Pierre Lynch, président de l'AQDR, à mon collègue Karim Benessaye. Le NPD et Bloc québécois ont tenu pareil propos en réclamant que les aînés aient droit en avril à 250 $ eux aussi. Puisque les chiffres peuvent être trompeurs ou mal interprétés, j'ai contacté un expert en matière de revenus à la retraite. Pierre-Carl Michaud est professeur au département d'économie appliquée de HEC Montréal et directeur scientifique de l'Institut sur la retraite et l'épargne. Il est d'accord pour dire que le message au sujet des aînés n'est pas toujours cohérent avec la réalité d'aujourd'hui. Jusqu'au milieu du siècle dernier, les retraités en arrachaient financièrement et cette perception demeure incrustée. Dans presque tous les pays de l'OCDE, on a ce problème-là de mythe qui est très difficile à défaire, m'a-t-il dit. On a beau être sensible à l'image de la personne aînée seule, qui n'a presque pas de revenus de retraite, qui vit de manière difficile. Il y en a au Canada, mais la moyenne des aînés vit avec un pouvoir d'achat substantiel. Certaines politiques publiques onéreuses pour l'État sont d'ailleurs basées sur ce mythe des aînés misérables et tout le monde en paie le prix, au bout du compte. Il faut qu'on s'en défasse, plaide l'universitaire qui n'est pas insensible au sort des aînés malgré les chiffres à leur sujet qu'il étudie depuis des années. Ces calculs mettent aussi en évidence un phénomène peu connu. Les retraités dont les revenus après impôts sont plus élevés à 65 ans qu'avant 65 ans. En moyenne, au Québec, les 66 à 69 ans gagnent l'équivalent de 90 % de leurs revenus de travail. Pour la moitié de la population, ce taux de remplacement est de 100 % et il grimpe jusqu'à 300 % chez les plus pauvres. Et oui, la retraite se traduit dans bien des cas par une augmentation de revenus. Les aînés sont-ils plus affectés par l'inflation parce que la composition de leur panier d'achat diffère considérablement de celle des plus jeunes comme on l'entend parfois? Les données, répond Pierre-Carl Michaud, démontrent plutôt que leurs dépenses sont assez près de la moyenne canadienne. Bien sûr, qu'il soit question de moyenne ou de médiane, il se trouve toujours des personnes aux extrémités du spectre. D'ailleurs, un aîné sur cinq vit avec 60 % de leurs revenus d'avant la retraite, un taux de remplacement jugé relativement faible. Leur réalité personnelle existe et l'idée ici n'est surtout pas de le nier. Au contraire, il faut s'assurer de mettre en place des mesures ciblées pour améliorer leur situation, ce que l'idée originelle des chèques de 250 $ ne faisait hélas pas du tout. La seconde mouture, le cas échéant, devra être plus sensée. C'était « Le mythe de la précarité financière des aînés », un texte de Marie-Ève Fournier paru le 28 novembre 2024 dans la presse.
La téléconsultation, un outil crucial pour les personnes atteintes de maladies chroniques. Un texte de Monica Megra, paru le 29 novembre 2024 dans Le Devoir. Je suis infirmière, professeure et candidate au doctorat en recherche en sciences de la santé et je souhaite partager mes observations, soutenues par celles de ma collègue patiente partenaire, sur l'avenir de la téléconsultation médicale. Cette modalité de soins, qui a pris une ampleur importante durant la pandémie de COVID-19, s'impose comme un outil incontournable particulièrement pour les personnes atteintes de maladies chroniques. Actuellement, nous menons un projet de recherche sur la collaboration interprofessionnelle dans un contexte de télésanté en soins primaires qui s'intéresse plus spécialement à la perspective des patients vivant avec des maladies chroniques. Nos résultats préliminaires mettent en lumière un aspect souvent sous-estimé de ce mode de consultation. Les personnes rapportent se sentir davantage écoutées lors de consultations virtuelles. Cette perception découle en partie de la structure des téléconsultations, où l'interaction se concentre sur des échanges ciblés, souvent perçus comme plus personnalisés et respectueux de leur expérience. En plus de permettre un suivi continu et efficace, la téléconsultation favorise chez plusieurs personnes la réponse rapide à leurs besoins de renouvellement de prescription et de gestion de leurs symptômes. Ce modèle favorise également la réduction des délais tout en allégeant les contraintes logistiques des patients. Cette avancée technologique facilite l'accès et la continuité des soins pour plusieurs personnes. Par exemple, celles ayant des enjeux de mobilité ou de transport, provenant de milieux éloignés ou encore ayant des horaires irréguliers. Pour les personnes proches aidantes et leurs jeunes familles, la téléconsultation est une option de premier ordre. Cet accès se traduit par une amélioration de la qualité de vie des patients et par une prise en charge plus rapide de leurs conditions de santé. De plus, la voix des patients confirme la valeur ajoutée de la téléconsultation. Nombreux sont ceux qui apprécient la flexibilité et l'accessibilité accrue offertes par cette approche. La possibilité d'une prise en charge plus rapide peut éviter des complications potentielles liées à des retards dans les soins et diminuer les visites aux urgences. En plus des bénéfices pour les patients, la téléconsultation favorise également l'intégration des autres types de professionnels de la santé dans le processus de soins. Les infirmiers et infirmières praticiennes, les infirmiers et infirmières, les pharmaciennes et pharmaciens, ainsi que toutes les personnes constituant les équipes dans les cliniques médicales peuvent jouer un rôle plus actif et exercer leur plein champ de pratique, ce qui permet la prise en charge en équipe et améliore l'efficacité globale des soins. Pour l'ensemble du système de santé, la téléconsultation contribue également à optimiser les ressources médicales, libérant des plages horaires pour les consultations nécessitant une évaluation en présentiel. Ceci augmente aussi l'accessibilité des patients orphelins avec l'accès des guichets de première ligne. Cette approche permet également une division appropriée des soins selon l'expertise des différents professionnels de santé. Par exemple, ces derniers peuvent intervenir pour des actes dans leur champ de compétences, assurant ainsi une prise en charge complète tout en maximisant l'utilisation des ressources humaines du système de santé. En outre, la téléconsultation contribue positivement à l'environnement en réduisant la nécessité de déplacement pour les consultations, ce qui diminue les émissions de gaz à effet de serre associées au transport. Cependant, pour que cette pratique demeure efficace et pertinente, il est essentiel de poursuivre les investissements dans les technologies de télésanté, de former le personnel professionnel à leur utilisation et de mettre en place les bonnes pratiques ainsi que la législation encadrant les dites pratiques qui guident les consultations virtuelles, tant pour les personnes qui consultent que pour le personnel professionnel de la santé. Il existe des guides et des outils permettant aux personnes de se préparer adéquatement pour un rendez-vous virtuel et de reconnaître les situations où la téléconsultation est souhaitable. La reconnaissance de la téléconsultation comme un pilier de la médecine de première ligne est cruciale pour répondre aux besoins croissants d'une population vieillissante et aux défis des maladies chroniques. En somme, la téléconsultation n'est pas un luxe, mais une nécessité. Son maintien et son amélioration doivent être prioritaires pour offrir à tous les patients un accès équitable à des soins de qualité, tout en respectant les contraintes du système de santé québécois. Les retombées positives de ce mode de consultation en santé plaident en faveur de l'intégration durable de cette approche dans les pratiques médicales et interprofessionnelle. C'était la téléconsultation, un outil crucial pour les personnes atteintes de maladies chroniques. Un texte de Monica Megra, paru le 29 novembre 2024 dans Le Devoir.
Difficile à apprivoiser, le vélo d'hiver, un texte de Chloé Bourquin, paru le 13 décembre 2024 dans La Presse. J'adore faire du vélo l'été. Mais l'hiver, j'ai peur de glisser, d'abîmer mon vélo, d'avoir froid. Auriez-vous des conseils pour bien débuter? Demande Laurence, une lectrice. Entre la neige et les températures qui dégringolent, le vélo d'hiver peut parfois paraître comme une épreuve insurmontable, réservée à un petit nombre de courageux qui s'accrochent à leur monture, beau temps, mauvais temps. Mais si on est bien préparé, les choses se passent souvent mieux qu'on pourrait le penser. En effet, 97% des personnes qui testent le vélo d'hiver disent vouloir renouveler l'expérience. Et 79% disent que c'est moins dangereux qu'elles ne le pensaient, souligne Jean-François Rault, directeur général de Vélo Québec. Ces chiffres proviennent d'une étude menée auprès de néo-cyclistes d'hiver dans l'arrondissement Hanzik-Cartierville à Montréal. Depuis quelques années, l'arrondissement accorde une subvention de 200 $ pour cette pratique. La sécurité. Malgré le déneigement, il n'est pas rare que, l'hiver, la route soit recouverte d'une couche de neige, plus ou moins épaisse, de slush, de glace noire et glissante, voire des trois à la fois. Pour mitiger les risques de glissade, la plupart des cyclistes d'hiver optent pour des pneus cloutés ou à crampons aussitôt que tombent les premiers flocons de neige. Ça ajoute de l'adhérence et de la confiance aussi, souligne Edouard Unterberg-Pichet, mécanicien bénévole et membre de la coop Roue Libre à l'Université Laval. Si on se sent moins en confiance, on peut aussi pratiquer le vélo d'hiver en empruntant des pistes cyclables bien séparées, la fin de semaine et sans être pressé, pour apprendre à adapter son coup de pédale à l'état des routes. C'est comme pour la voiture. C'est un peu plus difficile en hiver. Il faut ajuster sa conduite et sa vitesse, rappelle Jean-François Rault. Notons qu'en pratique, il est relativement rare de pédaler dans plusieurs centimètres de neige. On parle d'une dizaine de jours par an, estime M. Rault. Le reste du temps, on roule surtout sur de l'asphalte. Un dernier conseil pour rouler en toute sécurité, être bien visible. C'est particulièrement important l'hiver, puisqu'il fait souvent nuit lorsqu'on se rend au travail ou qu'on en revient. Il est donc recommandé d'avoir de bons feux à l'avant et à l'arrière, et même des bandes réfléchissantes. Le prix. Certains cyclistes estivaux hésitent à adopter le vélo d'hiver de peur d'endommager leur monture en raison du sel qui peut gripper la chaîne et accélérer l'apparition de rouille. Si on a un endroit pour l'entreposer, on peut se procurer un deuxième vélo qui servira seulement l'hiver. Edouard Unterberg-Pichet conseille également d'opter pour des garde-boue pour éviter de se salir, mais aussi pour éviter que le vélo ne soit trop aspergé de sel. On peut préserver sa monture en l'entretenant régulièrement, 2 ou 3 fois par saison, selon sa fréquence d'utilisation. On conseille souvent d'entreposer son vélo à l'abri des intempéries, tout en évitant l'alternance chaud-froid. L'idéal est donc de garder son vélo dans un cabanon dehors ou dans un sous-sol. Si on habite à Montréal, on peut aussi opter pour un bixi d'hiver, histoire d'éviter d'endommager son beau vélo d'été. Cette option a séduit de nombreux cyclistes depuis sa mise en place en 2023. en chiffres, source Bixi, bilan 2024, de novembre 2023 à avril 2024, 93 000 personnes ont emprunté un Bixi d'hiver pour près de 1 million de déplacements. Parmi elles, 65 % expérimentaient le vélo d'hiver pour la première fois. 81 % pensent renouveler l'expérience. Le froid. Les cyclistes d'hiver le répètent souvent, l'important pour éviter d'avoir froid, c'est d'être correctement équipé. Dès qu'on va se mettre à bouger, on va avoir chaud. Mais si on sue, c'est là que le froid risque de rentrer, rappelle Edouard Unterberg-Pichet. De bons gants font partie des incontournables, tout comme de bonnes chaussettes qui tiennent au chaud sans retenir l'humidité pour autant. Pour ce qui est de l'habillement général, s'il ne fait pas trop froid, on évite les gros manteaux d'hiver ou les bottes de neige. Selon Edouard Unterberg-Pichet, mieux vaut privilégier les chaussures basses pour garder la cheville mobile, couplée à des guêtres imperméables pour éviter que l'humidité rentre. En plus du casque, les cyclistes optent souvent pour des lunettes de ski, une tuque, un col ou même une cagoule pour protéger la tête, les yeux, les oreilles et le cou du froid et du vent. Mais le conseil le plus important pour Edouard Unterberg-Pichet reste surtout d'avoir du plaisir. Les cyclistes d'hiver sont souvent vus comme les porte-étendards de l'écologie. Mais il y a vraiment beaucoup de gens, dont moi, qui font du vélo d'hiver d'abord et avant tout parce qu'on adore ça, lance-t-il en riant. Quelques ressources supplémentaires. Plusieurs organismes comme la coop Roue Libre proposent des formations pour commencer le vélo d'hiver ou pour apprendre à entretenir son vélo. Le site de Vélo Québec regorge de ressources et de conseils de pros du vélo d'hiver et dispose d'un programme de mentorat pour les débutants. Sur Facebook, le groupe Vélo d'hiver Montréal comprend plus de 22 000 membres qui partagent leurs astuces pour s'équiper. Le site Vélo Info permet aux cyclistes de voir, comme sur Québec 511, l'état des routes, mis à jour en temps réel par des habitués. C'était « Difficile à apprivoiser le vélo d'hiver », un texte de Chloé Bourquin, paru le 13 décembre 2024 dans la presse.